Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le matin du 10 décembre 1936, Édouard VIII appose sa signature sur l'acte d'abdication par lequel il met fin à un règne de 326 jours, l'un des plus brefs de l'histoire britannique.
RTL.
I discharge my last duty as king and emperor.
Son frère devient à cet instant précis le roi George VI.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une enquête généalogique que l'on vous raconte, comment un homme se rend compte qu'il est sans doute le petit-fils caché d'Édouard VIII, comment il découvre l'incroyable secret et histoire de sa famille. François Graffiot, l'homme qui aurait dû être roi, c'est le titre du livre qui retrace votre destin au Cherche Midi, coécrit avec Hélène Grosso et Jean Sicardi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas roi.
Ben non.
Quel est votre métier?
Oh ben écoutez, là je suis à la retraite.
Ouais.
Je viens d'avoir 70 ans.
Vous ne le faites pas? Ah mais pas du tout, alors j'étais surpris de vous entendre dire que vous étiez à la retraite.
Rappelez-nous qui était votre supposé grand-père, le roi Édouard VIII.
Ben écoutez, vous venez de le dire, il a régné sur le trône d'Angleterre, enfin il a été sur le trône d'Angleterre, il n'a jamais été couronné.
Pourquoi il a abdiqué?
Il a abdiqué à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons familiales, si j'ose dire, puisqu'il souhaitait épouser Wallis Simpson, qui était une Américaine divorcée, et qui ne pouvait pas monter sur le trône avec lui, si j'ose dire, puisque la monarchie a refusé de lui accorder le droit au mariage. En
fait. Alors ça, c'est l'histoire d'Édouard VIII, rapidement résumée. Bon, on imagine, il y a une vingtaine d'années, une de vos amies vous dit que vous ressemblez à cet homme, à Édouard VIII,
alors effectivement,
duc de Windsor. Comment vous réagissez?
Alors, cette amie, en fait, elle me l'a dit il y a plus d'une vingtaine d'années.
D'accord.
Elle me l'a dit il y a une cinquantaine d'années.
Ouais.
Et pendant les 30 années suivantes, je l'ai occultée. Alors j'imagine que soit c'était une information qui était trop impossible à entendre, mais ça n'est que 30 ans plus tard, c'est-à-dire il y a plus que ça, il y a une quinzaine d'années, que constatant que j'éprouvais certaines souffrances psychologiques, je me suis penché sur ce mystère que je connaissais dans ma famille, qui était celui de l'identité de mon grand-père.
Quand vous parlez de souffrance psychologique, vous parlez de quoi? D'un malaise, comme s'il vous manquait des éléments de votre histoire?
Alors, écoutez, c'est difficile. Au départ, on ne sait pas, on cherche dans tous les sens. Hein. On lit Freud, on lit Jung, on se dit, voilà, il y a un problème avec les parents. Mais finalement, en étudiant la psychogénéalogie, je me suis rendu compte que j'avais tous les symptômes de la deuxième génération lorsqu'il y a un mystère généalogique dans une famille. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est invraisemblable, parce que j'ai cherché dans toutes les directions, mais j'ai jamais vraiment réussi, j'ai jamais vraiment pensé que l'absence d'un grand-père pouvait constituer une base de déséquilibre psychologique. Ouais.
Donc vous êtes alerté, vous finissez par vous pencher sur cette question. La ressemblance est effectivement frappante. Donc c'est le début quoi, d'une enquête généalogique, c'est ça?
Alors c'est le début d'une enquête, et surtout à ce moment-là, je me suis rappelé que quelqu'un, lorsque j'avais 20 ans, Pénélope entre autres, m'avait dit que je ressemblais à quelqu'un, mais j'avais même occulté le nom de ce quelqu'un.
D'accord.
Donc j'ai été obligé de la rappeler pour lui demander, mais ça fait 30 ans que tu me dis que je ressemble à quelqu'un, de qui s'agit-il? Et à ce moment-là, elle me dit le duc de Windsor. Et je vous cache pas qu'à ce moment-là, le duc de Windsor, je savais pas trop qui c'était.
Donc vous allez chercher
Je vais sur Google, je marque duc de Windsor. Et quand j'ai vu la photo, j'ai eu l'impression d'être en face de mon père.
Ah oui?
J'ai eu un choc. J'avais l'impression de voir mon père.
Alors, quand... Oui.
Et effectivement, je ressemble d'autre part beaucoup à mon père, ce qui fait que par la suite, je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Donc, mon enquête a commencé à ce moment-là, et le but de l'enquête était de me dire, mais enfin, c'est impossible que ma grand-mère, dont je connaissais les origines, qui était venant d'un milieu très simple parisien, comment est-ce qu'elle a pu rencontrer l'héritier du trône britannique? Ça m'a paru impossible.
Mais il y avait un mystère quand même que vous connaissiez sur l'identité de votre grand-père. Oui, oui, ça faisait partie de l'histoire familiale.
Alors, le sujet était tabou en ce sens qu'il n'était pas question qu'on nous révèle l'identité de ce grand-père. Mmh. Mais on ne nous a pas caché du fait, le fait que l'acte de naissance de mon père révélait le texte était père inconnu.
Alors il y avait ce mystère autour de votre grand-père, et puis il y a aussi le manque d'affection de vos parents, une forme de froideur qui vous a évidemment fait souffrir quand vous étiez jeune et qui vous a toujours interrogé.
Alors effectivement, ça m'a intrigué, mais quand on est enfant, adolescent, ensuite adulte, on se dit, si mes parents m'aiment pas ou s'ils montrent pas d'affection à mon égard, c'est que j'ai un problème. Donc j'ai jamais imaginé que le problème pouvait être extérieur à moi, et c'est vrai que j'ai eu des relations difficiles avec mes parents jusqu'à la fin de leur vie.
Et c'est cette enquête qui va révéler, vous raconter, en tout cas, et vous faire comprendre toute cette histoire de famille et puis les manques d'amour que vous avez pu éprouver. Mais ça, on va le raconter dans un instant. On vous raconte le grand secret, la rencontre de la grand-mère paternelle de notre invité avec le futur roi d'Angleterre. Une belle histoire d'amour qui commence en 1912.
Vous écoutez RTL.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est un destin bouleversant, celui de notre invité François Gracio, petit-fils caché d'Édouard VIII, roi d'Angleterre. L'homme qui aurait dû être roi, c'est le titre de votre livre publié au Cherche Midi, coécrit avec Hélène Grosso et Jean Sicardi. Alors, on disait tout à l'heure, François Gracio, vous avez mené une enquête généalogique. On va raconter l'histoire de votre grand-mère, de cette rencontre avec Édouard VIII. Mais au bout de cette enquête, est-ce que vous avez, une preuve matérielle de ce lien, de cette ascendance royale?
De preuves matérielles, concrètement, pas véritablement, si ce n'est que depuis la sortie du livre, j'ai eu un document qui prouve que mon père, à l'âge de 19 ans, en 1935, a fait un voyage en bateau de Marseille à Londres, en première classe, et qu'il a séjourné dans un hôtel qui s'appelle le Grosvenor House, qui était le quartier général du prince de Galles de l'époque. C'était son club. Alors effectivement, pour un jeune étudiant français, il a bien fallu lui donner une raison d'effectuer ce voyage et de l'inviter à cet endroit-là. Donc effectivement, depuis la sortie du livre, ça constitue une sorte de preuve, puisque j'ai le document de la compagnie de navigation sur laquelle il a voyagé.
Et il y a aussi une montre dans votre famille, une montre qui aurait été offerte et dessinée par Édouard VIII.
Alors écoutez, bon, effectivement, à ma naissance, ma mère a reçu une montre de Van Cleef & Arpels qui s'appelle la montre cadenas. Et j'ai découvert que cette montre, le premier modèle de cette montre, a été dessiné par Édouard VIII et qu'il l'a remis à Wallis Simpson en cadeau de mariage. Et puis Van Cleef en a fait un modèle qui est achetable encore aujourd'hui en magasin.
Donc c'est pas forcément Édouard VIII qui l'a remis à votre...
Pas forcément, non. Mais enfin, c'est quand même étrange que, précisément, pour fêter la naissance du premier fils, ce soit cet objet-là plutôt qu'un autre qui soit choisi.
Oui. Ça l'est.
Donc il y a un faisceau d'indices et puis une enquête qu'on va raconter maintenant qui nous fait remonter en 1912. Le jeune prince de Galles, futur Édouard VIII, arrive incognito à Paris. Que vient-il faire?
Alors écoutez, simplement, bon, il voyage sous le nom du comte de Chester et il vient simplement en visite chez un ami intime de son grand-père, Édouard VII, qui était le marquis de Breteuil. Et en fait, il vient pour découvrir Paris, puisque les fils du marquis de Breteuil ont le même âge que lui. Et donc, il lui montre Paris, les monuments, les sorties, et entre autres, le fameux Luna Park.
C'était quoi, Luna Park?
Alors, Luna Park, c'est le premier lieu où... c'est un lieu d'amusement, en fait, où il y a des concerts,
des ballets, des rencontres, voilà. On y danse aussi. Voilà.
Et c'est surtout un des premiers lieux publics où peuvent se rencontrer des gens de classes sociales différentes.
Et c'est là que le jeune Édouard va rencontrer une certaine Marie-Léonie Graftieu. C'est votre grand-mère.
Voilà.
Qui est-elle? Que fait-elle dans la vie?
Alors à cette époque-là, elle est apprentie couturière, enfin elle est couturière déjà, elle a 17 ans à ce moment-là. Hein. Et elle est couturière et mannequin. Elle travaille dans différentes maisons de couture connues déjà. C'est une jeune fille qui est à la fois belle et travailleuse.
Et c'est un coup de foudre.
Qui est issue d'un milieu très modeste.
Donc le roi qui voyage incognito rencontre... Futur roi, rencontre le prince de Galles, rencontre la jeune roturière, couturière qui est votre grand-mère. Et là, c'est un coup de foudre immédiat.
Alors écoutez, ça j'en sais rien parce que je n'étais pas sur place pour voir. Mais simplement, effectivement, dans le livre, on parle de cette rencontre. Il a fallu romancer un peu puisqu'il y a des trous d'informations entre le journal de ma grand-mère qui relate cette période et les mémoires du roi qui...
Oui, alors, parce que c'est important de dire ça, parce que sinon on pourrait, et j'imagine qu'on vous a souvent rétorqué ça, on pourrait dire, bon, bah, c'est une élucubration, mais quand vous racontez cette histoire, vous recoupez deux documents.
Voilà.
Lesquels ?
Exactement. Alors, d'une part, les mémoires d'un roi, que le duc de Windsor a écrit par la suite, je crois, dans les années 50, où sont retracés tous ces faits et gestes, en fait, même depuis son enfance, jusqu'à l'abdication, même après.
Et notamment ce séjour à Paris en 1912.
Voilà.
D'accord.
Et puis d'autre part, le journal intime de ma grand-mère, que j'ai découvert il y a seulement 3 ans, quand j'ai décidé d'écrire le livre, qui, elle, retrace la période de vie entre 1910 et 1916, disons.
Est-ce qu'elle cite dans ce journal l'identité du futur roi, du prince de Galles ?
À aucun moment. À aucun moment, il n'est question de l'identité de son fils.
Comment elle le décrit ?
Elle dit qu'elle rencontre quelqu'un et que elle dit rien en fait sur le père, il y a rien. Elle dit ça, elle parle des endroits qu'elle fréquente qui sont effectivement entre autres elle est souvent reçue chez le prince Karageorgievitch qui est le frère de Pierre Ier de Serbie.
Oui.
Qui est un cousin d'Édouard VIII. Donc elle parle de dîner chez lui. Mais elle ne parle jamais du père de son enfant.
Il y avait cette discrétion déjà.
Alors, et Marie-Léonie Graftio tombe enceinte.
Oui.
Donc on imagine, vous pouvez qu'imaginer que c'est du jeune prince de Galles.
Bah oui.
Est-ce qu'elle annonce la nouvelle au prince de Galles ? Est-ce qu'on le sait ça ?
Alors écoutez, j'en sais rien.
Parce que là, on travaille sur des si, c'est pas évident. Ouais.
Non, mais je suppose que oui, puisque cette jeune couturière... après la naissance de son fils, quelques années après, a les moyens d'ouvrir une maison de couture d'une très grande taille.
C'est pour ça que dans le livre, vous imaginez qu'on lui remet une somme, que le valet du prince de Galles lui remet une somme pour l'aider à vivre, parce que évidemment, le prince de Galles ne va pas concrétiser cet amour et reconnaître l'enfant.
Il n'est pas question ni d'épouser, ni de reconnaître l'enfant. En revanche, de s'occuper royalement de cet enfant bâtard, en remettant une somme importante pour permettre l'éducation de l'enfant, voire s'assurer du secret de la mère.
Alors, on va vous raconter maintenant la suite, c'est-à-dire la vie de votre grand-mère, de Marie-Léonie, et de son fils, loin, évidemment, de la famille royale britannique.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Imaginez, vous découvrez que vous descendez d'une famille royale et que l'on vous l'a caché toute votre vie. C'est un peu fou, mais c'est ce qui est arrivé à notre invité François Graftio. Votre grand-père serait Édouard VIII, roi d'Angleterre, devenu duc de Windsor. Et d'ailleurs, quand vous avez ce pressentiment et quand vous commencez à enquêter sur cette généalogie, vous avez des doutes, presque, vous n'y croyez pas, vous menez presque quoi, une contre-enquête, c'est ça ?
Alors effectivement, bon, c'est vrai qu'on me le disait depuis longtemps. Et puis, dans un premier temps, je me suis dit, mais enfin, je n'imagine pas du tout comment ma grand-mère, qui venait d'un milieu très modeste, ait pu rencontrer l'héritier du trône d'Angleterre. Et donc, lorsque j'ai commencé à enquêter, j'ai bien entendu commencé par la vie d'Édouard VIII. Et je me suis rendu compte qu'il avait passé toute la guerre de 14 à Paris. Alors, premier indice qui m'a mis la puce à l'oreille, en me disant, mais enfin, effectivement, en tout cas, géographiquement, la rencontre a été possible.
Une rencontre qui s'est déroulée, qui se serait déroulée à Paris en 1912. Votre grand-mère serait tombée amoureuse du prince de Galles. Lui aussi, elle serait tombée enceinte. Et elle a élevé votre père seul. Ça, c'est une certitude. Comment se déroule l'enfance de votre papa ?
Alors écoutez, il a eu une enfance assez difficile, puisque je sais qu'il a été en nourrice très tôt, et puis que ma grand-mère l'a confié en fait à des nourrices pratiquement pendant toute sa jeune enfance, et qu'il a ensuite été en pension depuis l'âge de 7 ans. Et elle l'a même remis dans une famille d'accueil à Marseille, je sais pas exactement combien d'années, mais enfin en gros elle l'a pas vraiment élevé, quoi.
Pourquoi? Parce que Marie-Léonie Graffio, votre grand-mère, se concentrait sur sa carrière?
C'est-à-dire qu'elle avait besoin de travailler, et puis en plus de ça, effectivement, elle était elle avait beaucoup d'ambition. Et puis
elle rêvait de devenir quoi? Elle était couturière.
Elle rêvait d'avoir une maison de couture, en fait.
Et donc elle va ouvrir une maison de couture. Et ça, on parlait tout à l'heure. En fait, depuis tout à l'heure, on parle d'un faisceau d'indices.
Oui.
On peut en rappeler quelques-uns. Donc, il y a l'histoire de ce voyage que votre père effectue quand il est jeune homme, tout frais payé en première classe à Londres. Et il arrive où? Dans l'hôtel qui est le QG du prince de Galles.
Exact.
Premier indice.
Oui.
On va en raconter un autre. Il y a cette histoire de montre.
Voilà, oui.
Bon, qui,
designée par Édouard VIII.
Designée par Édouard VIII, qui est le même modèle et qui est offerte
à ma mère. Pour fêter ma naissance.
D'accord, deuxième indice. Il y en a un troisième qu'on n'a pas encore cité. C'est le deuxième prénom de votre père.
Alors effectivement, le deuxième prénom de mon père, c'est Édouard.
Bon, voilà un troisième indice, donc ça en fait pas mal. Et puis il y a quoi, cette arrivée importante d'une somme d'argent, d'un seul coup, dans l'histoire de votre grand-mère, c'est ça?
Alors effectivement, quand on sait la difficulté qu'on a quand on veut créer une affaire, d'obtenir un financement bancaire, pour ce qui concerne ma grand-mère, on peut se poser la question, comment a-t-elle réussi à ouvrir une des plus grandes maisons de couture de Paris en 1925, je crois,
ou
par là. Et alors qu'elle avait un tout et pour tout, un certificat d'études, un apprentissage de couturière.
Et puis il y a une autre question aussi, pourquoi elle change de nom, votre grand-mère? Elle s'appelle Marie-Léonie Graffio, et puis soudain elle va s'appeler Marcel Dormois. C'est quoi, un nom de scène? Ou si au contraire, pour se protéger, parce qu'elle est inquiète qu'on la retrouve, elle et son fils, que la couronne britannique mette la main sur eux?
Bah écoutez, je pense pas que les raisons de changement de nom soient liées à la couronne britannique, mais plutôt au fait que c'est un nom de scène. Parce que c'est vrai que le nom de Graffio, il est difficile à prononcer. C'est pas vraiment très élégant, mais en revanche, Marcel Dormois, c'est un nom qui sonne bien, et je pense que c'est pour ça qu'elle l'a choisi, et c'est l'anagramme de mode et roi.
Un autre indice, c'est intéressant.
Et elle va faire une belle carrière.
Une très belle carrière.
C'est-à-dire que ce sera un des grands noms de la mode de l'époque?
Oui, en fait, elle a fermé en 1950. On peut dire qu'entre 1930 et 1950, c'était une des grandes maisons de couture.
Oui, elle a habillé de grandes stars. Alors, en 1938, Pierre, votre père, Édouard, son deuxième prénom, a 22 ans et votre grand-mère veut le marier. Elle va même choisir sa femme et monter tout un stratagème.
Alors, je ne sais pas si c'est elle ou la famille royale, parce que la famille royale, je pense, n'a jamais perdu de vue mon père. Et il n'est pas impossible qu'en prévision de la Première Guerre mondiale, ils aient envisagé de le marier à une Suissesse pour qu'il puisse se réfugier en cas de conflit. En Suisse, ce qui s'est d'ailleurs produit, puisque mon père était prisonnier pendant plus de 3 ans en Allemagne pendant la guerre.
Pendant la Seconde Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale. Et que, en fait, lorsqu'il a réussi à s'évader d'Allemagne, il s'est réfugié en Suisse dans sa belle famille.
Alors c'est quoi ce stratagème? Comment votre papa et votre maman vont se rencontrer?
Alors écoutez, ils se sont rencontrés dans un endroit étrange qui s'appelle le Mont d'Or, en Auvergne. Et j'ai toujours trouvé cette rencontre étrange, puisque mon père sortait de Saint-Cyr, sa mère venait de lui offrir une très belle voiture. Il était jeune et beau, et au lieu de choisir Deauville, Biarritz ou Cannes, il va au Mont d'Or. Bon. Et ma mère, sous prétexte de soigner une crise d'asthme, choisit un endroit dont le climat est exactement le même que celui où elle habite. Elle habite dans le Jura, dans une ville suisse qui s'appelle La Chaux-de-Fonds. Pour soigner son asthme, on l'envoie au Mont d'Or.
D'accord.
Et alors, ça m'a toujours paru étrange, cette rencontre entre mes parents.
En tout cas, il va naître une... ils vont se croiser, ils vont se rencontrer, oui. Ils vont s'aimer immédiatement. Là, on sait que c'est un coup de foudre.
Alors ça, on le sait, oui. Ça, effectivement, en tant que leur enfant, j'ai entendu dire souvent qu'ils avaient éprouvé un coup de foudre l'un pour l'autre.
C'est quoi votre enfance? Est-ce qu'ils se sont beaucoup occupés de vous, vos parents?
Bah, écoutez, en apparence, oui, mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais je pense que par rapport... J'ai été souvent étonné lorsque j'allais en visite chez d'autres, des amis d'école, de constater que la relation avec les parents est très, très différente de celle que j'avais avec les miens.
Parce qu'ils étaient distants avec vous ?
Distant, oui et non. C'est vrai que il y avait peu de marques d'affection. Enfin, c'était, on sentait un malaise.
Comme s'il y avait un secret de famille, peut-être quelque chose qui mettait de la distance entre vous et vos parents.
Certainement, certainement.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec eux, ou est-ce que vous avez mené cette enquête alors qu'ils n'étaient plus là, vos parents?
Alors, j'ai mené l'enquête alors qu'ils n'étaient plus là. Mon père était décédé. À un moment donné, j'en ai parlé avec ma mère, mais enfin, j'ai senti que c'était un sujet qu'il ne fallait pas aborder. Et
Dans le livre, vous dites même qu'elle vous traite de fou.
Oui, exactement. Ouais. Effectivement, là, je ne suis même pas sûr que ma mère ait été au courant. Parce qu'il n'est pas impossible que mon père ait conservé le secret. Et que lorsqu'il a rencontré le prince de Galles en 1935, il a juré à ce moment-là de ne jamais rien révéler à personne. Ouais. Et c'est probablement ce qu'il a fait.
Oui, ce qu'on imagine bien, c'est que le silence a été acheté... à une ou plusieurs occasions. Bon, c'est ce qui ressort de votre récit. Il y a une question qu'on ne vous a pas posée, mais vous avez dû faire la démarche. Vous avez contacté la famille royale britannique. Ah oui, ça semble dingue comme démarche, mais vous avez dû le faire.
Ah oui, complètement. Tout à fait. J'ai commencé en 2005 par le biais de l'ambassade du Royaume-Uni et du Foreign Office. J'ai envoyé mon dossier, ce que je pensais être la vérité. J'ai même écrit à 3 reprises à Elisabeth II, mais je n'ai jamais eu que des accusés de réception laconiques de mon dossier. En gros, Buckingham Palace ne traite pas ce genre d'affaires.
Vous aimeriez pouvoir, par exemple, réaliser un test ADN, c'est ça, avec un membre de la famille royale? Ça paraît fou, ça aussi, mais c'est la pièce qui manque.
À mon avis, il n'est pas nécessaire, le test ADN, parce qu'il suffit de déclasser les archives. Parce que c'est évident que je ne suis pas inconnu de la famille royale, que mon père ne l'a pas été. Il suffit de déclasser les archives. Le test d'ADN, c'est complètement accessoire.
François Graffio, est-ce que cette ascendance, cette histoire de famille, ce grand-père inconnu, c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit au quotidien, à chaque instant de votre vie ?
Écoutez, ça peut paraître étrange, mais oui. La réponse est oui.
Non, c'est pas étonnant.
Non, on peut comprendre. On peut comprendre.
Non, mais c'est vrai que, en tout cas, depuis que je sais que j'ai ces racines-là, je n'ai de cesse que de trouver des moyens pour tenter de me faire reconnaître. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait le livre que vous avez sous la main, il est en fait une lettre ouverte à Elisabeth II, puisque jusqu'à présent elle n'a jamais véritablement répondu à mes courriers. Aujourd'hui, le fait de rendre l'affaire publique est une manière, d'une certaine manière, de l'obliger à me répondre.
Vous l'avez traduit en anglais?
Parce alors, que pas encore.
Je ne sais pas si elle lit le français.
Pas encore. Ah, si, si,
on pourra lui traduire le livre.
Elle parle très bien le français.
Elle parle très bien le français. Le livre lui a été envoyé par l'éditeur avec une lettre manuscrite de ma part.
Et qu'est-ce que vous lui dites sur cette lettre?
Il est évident qu'elle l'a lu.
Qu'est-ce que vous dites dans cette lettre, François Graffio?
Je lui dis, je l'avais prévenu que j'écrirais un livre. Puisque voyant qu'il n'y avait pas de réaction, je l'avais prévenu que je rendrais l'affaire publique.
Merci infiniment, merci François Graffio, pour votre histoire à vous, très émouvante, l'homme qui aurait dû être roi, l'incroyable récit du petit-fils caché d'Édouard VIII, écrit par vous, par Hélène Grosso, et puis Jean Sicardi, c'est publié au Cherche Midi, c'est une histoire magnifique à lire.
Vous écoutez RTL.